VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
19h30 en temps universel, le monde aujourd'hui en direct de Washington. Au micro, Dilly Dico, bonsoir. À la une de l'actualité, ce jeudi 21 août, une transition de 3 ans au Niger est inacceptable pour la CEDEAO. L'Afrique du Sud s'apprête à recevoir les dirigeants des BRICS pour le 15e sommet de l'organisation. Les gardes-frontières saoudiens ont tué des centaines de migrants éthiopiens, selon Human Rights Watch. Et le président Joe Biden est attendu à Hawaï après des critiques sur la gestion des incendies dans cet État américain. Ne manquez pas notre rubrique économie et les sports, mais tout d'abord le journal. La CEDEAO rejette l'idée d'une transition de 3 ans avancée par les militaires au Niger. L'organisation explore la voie diplomatique pour un retour à l'ordre constitutionnel, mais agite toujours la menace de l'usage de la force. Alexandrine Holognon.
Les positions des deux camps semblent se crisper, malgré la médiation ce week-end, qui a permis aux émissaires de la CEDEAO de s'entretenir avec le général Abdourahman Tiani, puis le président déchu Mohamed Bazoum. Nous voulons que l'ordre constitutionnel soit restauré le plus rapidement possible, a affirmé Abdel Fattah Moussa, commissaire aux affaires politiques de la CEDEAO. Dimanche, des manifestations contre la France et la CEDEAO ont eu lieu à Niamey et à Agadez, la grande ville du Nord. Plusieurs milliers de manifestants ont demandé le départ de toutes les bases militaires étrangères, notamment la base américaine. Vendredi, après une réunion de ses chefs d'état-major à Accra, la CEDEAO a indiqué que le jour de l'intervention est fixé, sans donner de détails. Si une agression devait être entreprise contre le Niger, elle ne sera pas une promenade de santé, a répondu le général Tiani.
Toujours en rapport avec le Niger, un convoi d'environ 300 camions, principalement chargés de produits alimentaires, est arrivé du Burkina Faso à Niamey, la capitale du Niger, sous le coup de sanctions imposées par plusieurs voisins ouest-africains après le coup d'État du 26 juillet. Ces camions transportent en grande partie du sel, du maïs et des produits ménagers, précise le colonel Adamou Zaroumey, directeur régional des douanes, qui ajoute qu'il s'agit d'une bouffée d'oxygène pour le Niger. Au Mali, des djihadistes imposent depuis plusieurs jours un blocus à Tombouctou, dans le nord du pays, où les prix des produits ont commencé à augmenter. Cet embargo fait suite à des messages diffusés début août sur les réseaux sociaux et attribués à un commandant local du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Nous déclarons la guerre dans la région de Tombouctou. Les camions qui viennent d'Algérie, de Mauritanie et de toute autre provenance doivent cesser toute progression au risque d'être ciblés et incendiés. En Centrafrique, la Cour constitutionnelle a validé ce lundi un projet de nouvelle constitution approuvé fin juillet par référendum à plus de 95% et qui permettra au président Faustin Archange Touadéra de briguer un troisième mandat en 2025. La nouvelle loi prolonge également les mandats présidentiels de 5 à 7 ans. Le sommet des BRICS commence demain mardi et se termine jeudi à Johannesburg, en Afrique du Sud. Le président chinois Xi Jinping effectue à l'occasion une visite d'État dans ce pays. Claire Morin-Gibourg.
Pour ce 15e sommet des BRICS, les présidents brésiliens Lula da Silva et chinois Xi Jinping ont fait le déplacement ainsi que le premier ministre indien Narendra Modi. Le président russe Vladimir Poutine va participer en ligne et la Russie sera représentée par son ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. Xi Jinping, qui s'est déjà rendu en Afrique du Sud en 2018, effectue aussi une visite d'État. L'élargissement de la composition des BRICS, qui représente déjà 42% de la population mondiale, doit être discuté pendant ce sommet à Johannesburg. Une quarantaine de pays ont demandé leur adhésion ou manifesté leur intérêt. L'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Argentine et le Bangladesh sont parmi les candidats. Le sommet des BRICS veut constituer un contrepoids à l'influence occidentale dans le monde. Tous ces pays dénoncent la domination de l'Occident riche sur les organismes internationaux comme les Nations Unies, le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale.
Au Zimbabwe, plus de 10 000 partisans de l'opposition se sont réunis à Harare à 2 jours d'un scrutin qui s'annonce tendu. Zimbabwe, notre temps est venu, a crié Nelson Chamisa, qui fera face le mercredi 23 août à Emmerson Mnangagwa, 80 ans, surnommé le crocodile. En Ouganda, 4 personnes ont été arrêtées pour avoir pratiqué des actes homosexuels, a annoncé lundi la police. Fin mai, le président ougandais Yoweri Museveni a promulgué une loi qui prévoit de lourdes peines pour les personnes ayant des relations homosexuelles. Human Rights Watch accuse les gardes frontières saoudiens d'avoir tué des centaines de migrants éthiopiens qui tentaient de pénétrer dans la monarchie du Golfe en passant par la frontière avec le Yémen de mars 2022 à juin 2023. Les précisions de John Linden.
Les autorités saoudiennes contestent les faits rapportés par Human Rights Watch. Ils sont infondés et ne reposent pas sur des sources fiables, a déclaré une source gouvernementale saoudienne. Dans son rapport de 73 pages, l'ONG s'appuie sur des entretiens avec 38 migrants éthiopiens qui ont tenté de pénétrer en Arabie Saoudite depuis le Yémen, des images satellites et des vidéos et photos publiées sur les réseaux sociaux. Les personnes interrogées ont parlé d'armes explosives et de tirs à bout portant des gardes-frontières saoudiens. Les milliards dépensés dans le sport et le divertissement pour améliorer l'image de l'Arabie Saoudite ne devraient pas détourner l'attention de ces crimes horribles, a fustigé Nadia Hardman, spécialiste des migrations à Human Rights Watch.
D'ailleurs, suite à ce rapport de Human Rights Watch, Washington demande une enquête sur les allégations de meurtre de migrants éthiopiens. Nous avons fait part de nos inquiétudes concernant ces allégations au gouvernement saoudien, a précisé un porte-parole du département d'État.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Joe Biden est attendu ce lundi soir à Hawaï, près de 2 semaines après les incendies qui ont fait au moins 114 morts et plus d'un millier de disparus sur l'île de Maui, où les opérations de recherche continuent dans un contexte de critique de la gestion du drame par les autorités. Le point avec Michel Joseph.
Le président américain, accompagné de sa femme Joe Biden, va rencontrer des familles, des secouristes et des responsables locaux. Selon la Maison-Blanche, après un survol en avion des dommages, M. Biden compte révéler le nom d'un coordinateur fédéral pour les efforts de reconstruction. Il va aussi annoncer un fonds d'urgence de 3 millions de dollars réclamé par le ministère des Transports d'Hawaï. Sa visite intervient après de vives critiques de responsables républicains qui ont estimé qu'il est resté trop silencieux devant la catastrophe. La Maison-Blanche souligne que Joe Biden a été en contact étroit avec le gouverneur d'Hawaï, le démocrate Josh Green. Monsieur Biden a déclaré l'état de catastrophe naturelle à Hawaï le 10 août, 2 jours après le début des incendies permettant de déployer l'aide fédérale. 114 décès ont été confirmés. Le bilan définitif peut être beaucoup plus lourd, car près de 1000 personnes sont toujours portées disparues.
Les Syriens dans les zones rebelles commémorent ce lundi le 10e anniversaire de l'attaque chimique au gaz sarin près de Damas, qui a fait au moins 1400 morts, un crime attribué au régime de Bachar al-Assad. Dans plusieurs localités, des zones échappant au contrôle du régime, dans le nord du pays, des proches des victimes, des militants et des secouristes ont organisé des rassemblements. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. Maintenant, la Minute Éco, un condensé des nouvelles économiques avec Alexandrine Rolognon.
D'abord, l'expansion des BRICS est envisagée lors d'un sommet qui s'ouvre à Johannesburg cette semaine. Plus de 40 pays ont exprimé leur intérêt à rejoindre les BRICS, selon des responsables de l'Afrique du Sud, qui accueillent le sommet du 22 au 24 août. Parmi eux, près de 2 douzaines ont demandé à être admis. La Banque centrale de Libye redevient une institution souveraine, unifiée. L'annonce de la réunification a été faite par les gouverneurs des deux branches. Un processus d'unification avait été lancé en décembre 2021 au sein de la Banque centrale, scindée depuis 2014, comme bien d'autres institutions étatiques, du fait des luttes de pouvoir entre camps rivaux. Et pour clore cette minute, le gouvernement somalien a décrété dimanche l'interdiction de TikTok, Telegram et le site de paris en ligne OneXBet. Selon le ministère, ces plateformes sont utilisées par des terroristes à des fins de propagande. La décision intervient à l'approche de la deuxième phase de l'offensive militaire contre les islamistes radicaux Shebab, qui mène depuis plus de 15 ans une sanglante insurrection contre le gouvernement central de Mogadiscio.
Place au sport avec Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Dili, bonsoir à tous.
On parle des mondiaux d'athlétisme. Quels sont les temps forts de mardi, Bagassi?
Le duel entre Sifan Hassan et Fefe Kipyegon sur 1500 mètres, l'éventuel quatrième sacre de Moutaz Essa Barshim à la hauteur et l'entrée en lice de Toby Amoussan sur 100 mètres sont les temps forts attendus aujourd'hui au championnat du monde d'athlétisme de Budapest. La néerlandaise Kabose, depuis sa chute spectaculaire près de la ligne d'arrivée du 10 000 mètres qui lui avait coûté une médaille d'or samedi soir, s'attaque à un immense défi face à la meilleure coureuse du moment, la Kenyane Fefe Kipyegon. Cette chute, c'est comme ça, c'est la vie, je vais de l'avant. Mon esprit est remis, mais pas mon corps. J'ai mal partout, a lancé Hassan lundi soir après les demi-finales du 1500 mètres, coudes et genoux bandés. Championne du monde du 1500 mètres en 2019 devant Kipyegon, Hassan a depuis perdu la main sur la distance face à sa rivale kenyane qui mène 10 à 9 dans leur confrontation et a remporté leur quatrième dernière course commune.
Football maintenant. Thierry Henry, nommé sélectionneur des espoirs et de l'équipe de France olympique.
Oui, l'ancien grand buteur français Thierry Henry a été nommé ce lundi. Le principal objectif de l'ex-légende d'Arsenal, âgé de 46 ans, qui succède à Sylvain Ripoll et dont le choix a été validé à l'unanimité par le comité exécutif de la Fédération française de football, sera de faire briller les Français au JO de Paris 2024, selon une source citée par l'AFP. Il pourrait y diriger Kylian Mbappé, puisque le champion du monde 2018 a à plusieurs reprises clamé son rêve de disputer les Jeux olympiques, un souhait appuyé par la FFF. Les JO masculins de football sont réservés aux joueurs de 23 ans ou moins, mais chaque équipe peut inclure à son groupe 3 éléments plus âgés.
Bagassi, des nouvelles de quelques stars africaines en Europe ce week-end?
Oui, Victor Osimhen et Mohamed Salah ont ouvert leur compteur de buts pour la saison en aidant Napoli et Liverpool a remporté des victoires en championnat ce week-end. En Italie, Osimhen, le meilleur buteur de Serie A la saison dernière, a marqué 2 fois lors d'une victoire 3-1 à Frosinone, tandis qu'en Angleterre, Salah a expié pour avoir paré un pénalty en tapant sur le rebond lors d'une victoire 3-1 sur Bournemouth. Le milieu de terrain sénégalais, Pape Sarr, a marqué son premier but pour les londoniens du Nord, Tottenham, lors de leur impressionnante victoire 2-0 contre Manchester United. Sarr est rentré à bout portant à la 49e minute pour mettre fin à l'impasse. Le joueur de 20 ans s'est vu offrir une chance au cœur du milieu de terrain par le nouveau patron de Tottenham, Ange Postecoglou, et a répondu par une démonstration dynamique.
Merci Bagassi.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Dili Diko, de retour avec vous. Passons à notre tranche magazine. Une période de transition de 3 ans est inacceptable au Niger, a affirmé Abdel Fattahou Moussa, commissaire aux affaires politiques de la CEDEAO. La CEDEAO répète que le président Mohamed Bazoum doit être réinstallé au pouvoir. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Idriss Fall a joint à Niamey Ousseni Issa du journal L'Enquêteur, doyen de la presse au Niger.
Ce qui va se passer, c'est qu'il ne va rien se passer véritablement. Pour intervenir militairement au Niger, il faut nécessairement une autorisation, comment dire, du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et j'ai toute peur qu'ils puissent disposer de cette autorisation-là qui puisse leur permettre de venir intervenir au Niger, qui est quand même un pays souverain. Le Mali et le Burkina Faso, et qui ont été très clairs en cas d'agression contre le Niger, que la CEDEAO considère que c'est une guerre déclarée au Mali ou au Burkina Faso. Également la Guinée qui est solidaire vis-à-vis de la position du Niger. Alors, ce que la CEDEAO cherche à faire, parce que ici, en tout cas au sein de l'opinion, tout le monde a compris que la CEDEAO, c'est aujourd'hui un instrument qui est manipulé par la France, par Macron. À cause des intérêts français, la France ne veut pas perdre le Niger après avoir perdu déjà le Mali et le Burkina Faso. Alors, il faut mettre la barre très haut, pensant pouvoir amener les populations à se retourner contre la junte qui est actuellement au pouvoir. Le régime qui vient d'être chassé du pouvoir, c'est un régime qui ne tenait pas compte des aspirations du peuple, qui était à l'encontre des aspirations du peuple à la limite. Et c'était un ouf de soulagement. Et c'est partant de ces considérations que les populations ont décidé de soutenir massivement. Et c'est un soutien quasi quotidien. Tous les jours, y compris dans des petits hameaux, des gens organisent des manifestations pour dire « Nous sommes d'accord avec votre arrivée au pouvoir. Il faut qu'on balaye cette classe politique ou du moins ce régime-là. »
Est-ce que vous pensez qu'une opération militaire permettra de remettre Mohamed Bazoum au pouvoir ?
C'est que la CEDEAO, ils sont dehors. C'est nous qui vivons dans le pays. C'est nous qui savons ce que nous vivons dans le pays. C'est nous qui souffrons dans le pays. Pendant 12 ans, la CEDEAO était où ? Quand on tue des populations dans les villages, dans les hameaux de ce pays, aujourd'hui, je peux vous le dire, c'est qu'il y a des populations, ça fait 4 ans qu'ils n'ont pas pu cultiver leurs champs. C'est grâce à ça qu'ils vivent. Alors, quand la CEDEAO va venir vouloir imposer et libérer, comme ils disent, Bazoum et l'imposer, mais Bazoum va diriger quelle population, quel peuple, une population qui est là, qui dit on est d'accord avec ce qui s'est produit. On est en train de manifester qu'on est d'accord. Alors, quand vous allez venir par la force, et ce qui ne va pas être une promenade de santé, comme l'a dit le général Tchani, les pays aujourd'hui, même au sein de la CEDEAO, il y a beaucoup de pays qui sont désolidarisés de la position de violence que veut exercer la CEDEAO sur le Niger. Ça ne marche pas. Ils sont 4 ou 5 pays. Et ils connaissent un peu l'armée nigérienne, n'est pas une armée de parade, c'est une armée qui est combattante. Et ce que disent les responsables de la junte, c'est que ça va se faire dans un même temps, ça va se faire dans un contexte, ça va embraser toute la sous-région.
Notre confrère Ousseni Issa, du journal L'Enquêteur, est doyen de la presse au Niger.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Au Burkina Faso, la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes bat de l'aile avec la multiplication des attaques terroristes. L'arrivée massive des déplacés dans les villes a mis plus de pression sur les centres de santé et les médicaments ne suffisent plus. Reportage à Bobo Dulasso de Alidou Ouédraogo.
Nous sommes au centre de santé et de promotion sociale du secteur 4. En cette période d'hivernage, avec l'explosion des cas de paludisme chez les enfants, il y a une longue file d'attente. Des femmes sont assises sur des bancs avec des enfants visiblement souffrants. L'une après l'autre, elles entrent dans la salle de consultation avec leurs enfants en comptant sur la gratuité des soins. Mais très vite, elles sont frappées par un sentiment de déception. Sanata Kabore, carnet de santé et ordonnance médicale en main lance.
Après la consultation, si on nous donne les ordonnances, si on rentre dans les dépôts, des fois il y a quelques éléments des produits qui sont en manque. Il faudra qu'on parte chercher ça à la pharmacie. C'est chlore ou soit paracétamol seulement qu'on nous donne.
La césarienne est normalement gratuite, mais Ousmane Sondo a dû payer pour son épouse. Il nous explique.
Ma femme devait subir une césarienne, mais en tout cas moi, j'ai tout payé par manque de produits gratuits.
Cette situation est due à l'insécurité grandissante, justifie le directeur régional de la santé, Rodrigue Diao.
Et vous savez que la crise sécuritaire a fait de telle sorte que la question même de transport des médicaments d'une zone A vers une zone B, ça veut qu'aujourd'hui on a des centres de santé qui n'arrivent pas à être approvisionnés comme il se doit. Donc quand vous prenez ne serait-ce que le contexte sécuritaire, vous êtes d'accord avec moi qu'une grande partie de ces populations qui sont dans les zones touchées par l'insécurité ne peuvent pas avoir une permanence en termes de disponibilité des médicaments.
Le docteur Diao, par ailleurs directeur régional de la santé, prévient les populations que la situation pourrait encore être plus dur.
Je peux véritablement dire avec vous que la question économique actuelle, la question sécuritaire actuelle va certainement entraîner encore plus de plaintes des populations par rapport à la disponibilité des médicaments au niveau de nos centres de santé de façon globale et en particulier pour ce qui est des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes.
D'autres raisons expliquent la situation. Nous dit Salia Kassamba, président du comité de gestion des centres de santé et de promotion sociale.
Le manque de médicaments parce que le gouvernement doit donner l'argent aux CSPS parce qu'on donne les médicaments cadeaux. Si les cadeaux, la CSPS ne rembourse pas, on va avoir des problèmes parce qu'on ne peut pas payer encore parce qu'il n'y a pas l'argent. Il y a des CSPS qui doivent 80 millions, 60 millions, 200 millions. Bon, ça dépend quoi. Si le gouvernement paye l'argent là, on peut payer les médicaments.
Après la propagation des cas de paludisme, c'est la croix et la bannière pour de nombreuses femmes déplacées qui voient leur enfant mourir faute de soins. Alidou Ouedraogo, Bobo Dulasso pour VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Gouvernance migratoire, enjeux et perspectives, c'est le thème des états généraux de la migration et du cadre de concertation des Maliens de l'extérieur. Cette rencontre a réuni pendant 3 jours à Bamako la diaspora et l'ensemble des acteurs concernés par les questions migratoires. Plus de détails avec notre correspondant à Bamako, Mohamed Danyoko.
Les états généraux de la migration, une des recommandations des Assises nationales de la Refondation, devait permettre aux acteurs institutionnels et opérationnels de discuter des différentes thématiques qui concernent la gestion de la migration. Les centaines de délégués venus de tous les continents ont saisi l'occasion pour exposer les difficultés auxquelles ils font face dans leur pays d'accueil et aussi parler de leurs attentes. Mamadou Lamine Bane, chargé des affaires sociales et des questions migratoires au sein du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur.
Nous souhaitons que le problème du papier soit un mauvais souvenir pour les Maliens établis à l'extérieur, que l'accès aux documents soit dorénavant quelque chose de plus facile. Ça, c'est la première des préoccupations. La deuxième préoccupation, ce qui concerne les Maliens établis à l'extérieur, c'est le code d'investissement, permettre aux Maliens établis à l'extérieur qui veulent investir au pays d'avoir des mécanismes plus faciles, des appuis financiers et non financiers pour pouvoir faire l'investissement au Mali.
Organisé avec la participation active de la délégation de l'Union européenne et de l'Organisation internationale pour les migrations, pour Pascal Rendiens, chef de mission de l'OIM au Mali, c'est une bonne chose d'associer la diaspora aux questions de développement et aux questions politiques. Il s'est surtout félicité que la question de la migration irrégulière fasse l'objet de discussions entre les acteurs en vue de trouver des réponses à une question complexe.
Ça a été rappelé en ouverture de ces états généraux. La question de la migration irrégulière est une question clé aussi qui doit trouver ses réponses, entre autres sur les échanges entre les uns et les autres, sur le fait de pouvoir trouver aussi des solutions aux causes mères de la migration et plus particulièrement de la migration irrégulière. Trouver des réponses sur la migration, franchement, je crois que c'est toujours très très complexe. Par contre, avoir un dialogue, pouvoir avancer petit pas par petit pas, ça, c'est la manière dont on va pouvoir faire évoluer les politiques, les interventions sur le terrain, aussi les états d'esprit.
Le ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine, Moussa Attayer, pour une migration sûre et bénéfique pour tous les pays, a mis en avant la nécessité d'inclure les pays de départ dans les accords jusque-là signés entre les pays de transit et d'accueil.
Pour tout accord établi seulement entre les pays de transit et les pays de destination, peut relever des failles parce que l'implication des pays de départ est importante. Parce qu'aucun pays à lui seul, je l'ai rappelé, ne peut être le gendarme du monde pour empêcher la migration.
Promouvoir le partenariat entre les structures intervenant sur la question migratoire, promouvoir l'investissement productif de la diaspora, produire des données statistiques fiables, en vue d'une meilleure planification des politiques et stratégies migratoires, renforcer les actions de lutte contre la migration irrégulière sont quelques recommandations phares issues de ces états généraux sur la migration et du cadre de concertation des Maliens établis à l'extérieur. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, c'est VOA Afrique, 24h sur 24.
La Côte d'Ivoire possède le deuxième plus grand calculateur du continent après l'Afrique du Sud. Cet appareil, d'une capacité de stockage de 1,6 pétaoctets, est l'équivalent d'environ 10 000 ordinateurs réunis en un seul appareil. Plus de détails sur cette nouvelle technologie avec notre correspondant à Abidjan, Ange Bijou Nomenyo.
Dans cette salle de l'université Félix Houphouët-Boigny est installé le supercalculateur ivoirien. Cet outil technologique a permis à la Côte d'Ivoire de marquer des points dans le milieu des recherches. Plutôt que d'attendre des mois ou des années avant d'obtenir des résultats de recherche, il est désormais possible d'avoir des résultats en l'espace de quelques jours.
On était à 18% d'utilisation du système. Donc là, on a compris rapidement qu'il faut mettre en place un système de formation. Et aujourd'hui, la donne, avec la montée en puissance de l'intelligence artificielle dans tous les domaines, hein, de l'innovation, de la technologie, on est obligé de passer à une formation intensive.
Et les résultats sont plutôt satisfaisants depuis le lancement de cette technologie en 2018. Plusieurs opérateurs sont passés au centre pour l'utiliser. Ils n'ont plus besoin de se rendre en Afrique du Sud pour mener leurs recherches.
Beaucoup d'opérateurs qui ont visité le centre de calcul. Et effectivement, vu la puissance des calculs, ils sont satisfaits. Il y a quelques éléments à mettre en place au niveau du centre de calcul. Et ces éléments, c'est d'assurer la norme 3 tiers, 2 tiers.
La norme 2 tiers est celle qui permet au calculateur de fonctionner même en cas de délestage. Un grand groupe électrogène a été mis en place à cet effet. Ce doctorant en prévision météorologique fait partie des nombreux opérateurs qui ont utilisé le supercalculateur ivoirien.
Alors, pour voir l'importance du supercalculateur pour nous dans nos travaux, c'est déjà savoir que la résolution de telles équations à travers le modèle, il fallait se contenter de laptop comme celui-ci pour résoudre ces équations, c'est-à-dire pour trouver des solutions, on pourrait faire laisser marcher cette opération, pourrait prendre de manière continue pour le laptop plus de 3 à 4 mois pour nous renvoyer des sorties qu'on appelle des solutions à ces équations. Mais avec le supercalculateur, on peut, en l'espace de 2, 3, 4, 5 jours, avoir déjà des sorties, si vous voulez, des solutions à la résolution de ce coup d'informatique.
Le supercalculateur ivoirien fera l'objet dans les prochains mois de présentations pour les grandes start-up ivoiriennes. Des cours et des formations seront également donnés à ceux qui souhaitent en apprendre davantage sur son utilisation. Ange Bijou Nomenyan pour VOA Afrique, Abidjan.
C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. La mise en onde a été assurée par Michel Joseph et John Dryden. Dili Dico à la présentation. Merci à toute l'équipe de production et merci pour votre fidélité. Plus d'informations sur notre site web voafrique.com. Je vous